Accent d'Europe, Juliette Garbrand.
Bonjour. Depuis les fracassantes révélations de la République tchèque sur les activités d'espionnage russe, la valse des ambassadeurs n'en finit pas entre la Russie et les capitales européennes. Après Prague, Vilnius, La Haye, Paris, Sofia, à son tour, expulse un représentant de Moscou. Et sur fond de tensions en Ukraine et autour du sort d'Alexei Navalny, tous les regards sont tournés vers l'unité 2955 du GRU, l'organe du renseignement militaire russe. Différents médias et les autorités de plusieurs pays européens ont identifié certains de ces agents impliqués dans de nombreuses affaires, dont l'empoisonnement de Sergueï Skripal en Angleterre. Les explications de Sofia Katsenko.
Derrière cette bataille diplomatique se cache une histoire complexe, celle d'Alexander Mishkin et Anatoly Chepiga, deux hommes qui auraient dû rester dans l'ombre. Ces espions russes présumés sont recherchés par les autorités tchèques. Ils seraient impliqués dans l'explosion d'un dépôt de munitions en 2014 qui a causé la mort de deux personnes. Cette explosion est au centre d'une nouvelle escalade des tensions entre l'Union européenne et la Russie, car Prague affirme que les deux hommes sont les mêmes que ceux qui auraient tenté d'empoisonner l'ex-agent double Sergueï Skripal en 2018 en Grande-Bretagne. Ils sont aussi soupçonnés d'avoir organisé une opération de déstabilisation politique en Moldavie en 2016 et d'avoir tenté deux fois d'empoisonner un marchand d'armes bulgare. Ces hommes font partie de la très secrète unité 29155 des services de renseignement russes, le GRU, qui pratique le sabotage et l'assassinat, comme l'explique Gerhard Mangott, spécialiste de la politique russe à l'université d'Innsbruck en Autriche.
Il semblerait qu'en 2008, le GRU ait créé cette unité spéciale pour s'attaquer aux ennemis de la Russie. Elle a fréquemment servi, même si nous ne connaissons pas toutes les occasions où elle a agi à l'étranger. Mais nous savons que ces agents sont intervenus en Bulgarie, en République tchèque, en Allemagne, au Royaume-Uni. Ils ont pu agir dans beaucoup d'autres pays, mais nous n'avons pas plus d'informations puisque c'est une unité secrète.
But we don't know. La plupart des agissements de cette unité connue jusqu'à présent datent d'après 2014. Souvenez-vous, cette année-là marque le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine et des journalistes, des chercheurs ou encore des membres des forces de l'ordre des pays occidentaux ont permis de recueillir quelques informations, comme le raconte Gerhard Mangott.
Le chef de cette unité est Andrei Avaryanov, un spécialiste du renseignement très bien formé. La rumeur veut que son groupe compte 20 à 30 membres. Ils font tous partie du GRU depuis très longtemps. Ils sont spécialement formés pour agir à l'étranger et en particulier dans les pays européens.
L'affaire tchèque a soulevé de nombreuses inquiétudes chez leurs voisins européens. D'ailleurs, selon Gerhard Mangott, les États de l'Union européenne devraient s'inquiéter davantage des activités de l'unité 29155 sur leur territoire.
Ces agents ont du pouvoir et ils arrivent à déstabiliser les sociétés occidentales, principalement les sociétés européennes, même s'il faut reconnaître que des unités similaires existent dans plein d'autres pays, prêtes à faire le sale boulot. Mais l'unité russe est particulièrement agressive et criminelle, et en plus, elle fait beaucoup d'erreurs. C'est grâce à ces erreurs que nous avons connaissance de ces attaques en Europe.
Selon Gerhard Mangott, le fait que ces espions soient démasqués pourrait rendre les opérations des services russes beaucoup plus difficiles. En tout cas, de nombreuses capitales européennes ont riposté en expulsant les représentants russes. De son côté, la Russie nie en bloc toutes les accusations. Et Moscou, à son tour, expulse des émissaires européens dans la plus grande tradition diplomatique.
Il y a une semaine, la Russie expulsait un diplomate italien après le renvoi chez eux de deux fonctionnaires russes, car en Italie aussi les espions s'activent. Un militaire italien de 56 ans, Walter Biot, a été arrêté à Rome pour espionnage pour le compte de la Russie. Il est toujours en prison dans l'attente de son procès. Tous les détails de l'affaire, depuis les sommes d'argent en jeu jusqu'aux moyens utilisés, avec Cécile Debarge.
Les rendez-vous entre le militaire italien et l'agent russe étaient parfaitement orchestrés. Signe distinctif de l'agent du Kremlin, un chapeau bleu. Moyen de transport utilisé, le métro, puis le bus et quelques arrêts plus tard, l'arrivée à Spinaceto, dans la banlieue sud de Rome. Le militaire italien, lui, engouffrait sa voiture dans un parking anonyme d'un centre commercial choisi pour sa proximité avec une colline et des murets de pierre, parfaits pour les protéger des regards indiscrets. C'est à l'intérieur du véhicule qu'avait lieu l'échange. 5000 euros en espèces contre une clé USB contenant des photos de documents confidentiels, en particulier sur les systèmes de télécommunication de l'Italie ou de l'OTAN. Walter Biot, le militaire italien, travaillait pour l'état-major des armées au ministère de la Défense, membre de la 3e division qui gère la politique militaire et la planification. Fin mars, pourtant, la transaction ne s'est pas passée comme prévu. Suivie depuis plusieurs mois par le contre-espionnage italien, les deux hommes ont été pris en flagrant délit. Pour Walter Biot, direction une prison romaine, il risque entre 20 ans d'incarcération et une condamnation à perpétuité. Son complice russe, lui, a été expulsé du pays, faute de pouvoir être arrêté en raison de son immunité diplomatique, une décision qui a fortement tendu les relations diplomatiques entre la Russie et l'Italie.
Les grandes institutions internationales sont bien sûr des cibles privilégiées pour les espions. À Genève, les activités de renseignement sont au moins aussi intenses que les activités diplomatiques. Il y a bien sûr le siège européen des Nations Unies, mais ce n'est pas la seule raison qui fait de la Suisse un carrefour de l'espionnage mondial. À Genève, les explications de Jérémy Lanche.
L'affaire remonte à 2004. Nous sommes en pleine crise du multilatéralisme au beau milieu de la guerre en Irak. À Genève, des ouvriers rénovent une des nombreuses salle du Palais des Nations, le siège européen des Nations Unies. Dans les boiseries, il tombe sur des micros implantés dans le lambris. Par qui, pourquoi, l'ONU se garde bien d'accuser un pays membre, même si tous les regards se tournent vers la Russie, déjà soupçonnée d'espionnite aiguë. Récemment, un rapport du gouvernement suisse affirmait qu'un quart des diplomates russes dans le pays sont en fait des espions, ce qui n'étonne pas le rédacteur en chef de la revue militaire suisse, Alexandre Vautravers.
C'est effectivement un pays qui a une politique étrangère très affirmée, avec des moyens de sécurité, des moyens de renseignement très importants. On ne peut pas l'ignorer, que ce soit en Suisse ou ailleurs. Lorsque vous avez une ville internationale comme Genève, siège de l'Organisation des Nations Unies, il faut être conscient que beaucoup de diplomates sont anciens militaires. Peut-être que dans le cas de la Russie, c'est quelque chose qui est un petit peu plus visible.
Il n'y a pas que l'ONU qui intéresse la Russie. Ces dernières années, des opérations d'espionnage russes ont visé l'Agence mondiale antidopage à Lausanne et un laboratoire d'analyse qui enquête sur les attaques au gaz sarin du régime syrien allié de Moscou, mais aussi l'empoisonnement de l'agent double russe Sergueï Skripal, ce qui ne veut pas dire que les autres pays n'envoient pas d'espions en Suisse. La preuve, c'est que les services secrets américains et allemands ont utilisé une entreprise suisse de chiffrement pour espionner plus d'une centaine de pays pendant 40 ans. L'affaire est révélatrice de l'ampleur de l'espionnage en Suisse et il n'est pas prêt de s'arrêter, dit encore Alexandre Vautravers.
Je pense que les activités de renseignement illicites en Suisse auront plutôt tendance à augmenter. Et il y a un certain nombre de raisons à cela. Une de ces raisons, c'est la 5G, c'est-à-dire que la multiplication de la mise en réseau de différents appareils crée en fait des quantités de données très importantes et des accès très importants en matière de cyberespionnage. Et particulièrement en Suisse, parce qu'il y a une implantation très forte de prestataires de services d'origine chinoise.
Il faut dire que la Suisse a longtemps été une cible facile. Il y a peu de temps encore, ses agents ne pouvaient même pas réaliser des écoutes. Ça a changé en 2017 avec l'adoption d'une nouvelle loi. Elle donne plus de moyens aux services de renseignement suisses. Ces derniers restent malgré tout modestes en comparaison avec leurs homologues européens, avec à peine 300 employés à temps plein pour contrer les espions de la planète.
I admire your luck, Mr.
Bond. James Bond.
Autre époque, autre nid d'espions, le Portugal. Et oui, c'est là qu'est née l'agent 007. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le pays, officiellement neutre, jouait un rôle ambivalent. Et près de Lisbonne, à Cascais, les palaces de la Riviera accueillaient les agents du renseignement de tous les pays. Le reportage de Marilyn Darcy.
Tout le monde connaît James Bond, le fameux espion au service de Sa Majesté. Ce que l'on sait moins, c'est que Ian Fleming s'est servi de sa vie d'espion pendant la Seconde Guerre mondiale pour créer le personnage de l'agent 007. Son premier livre, Casino Royal, s'inspire du casino d'Estoril près de Cascais sur la Riviera de Lisbonne. Comme d'autres espions, Fleming, pendant la guerre, descendait à l'hôtel Palacio qui jouxte le casino. Francisco Correa de Barros, l'actuel directeur du luxueux hôtel.
L'enregistrement, c'est government official, disait officiel, officier du gouvernement. Il y a un qui s'appelait Ian Lancaster Fleming, et puis un autre qui s'appelait Dusan Popov. Fleming était anglais, nationalité anglaise. Dusan Popov était un espion double, un double espion qui faisait l'espionnage pour les Alliés et aussi pour les Allemands. On dit que Ian Fleming venait pour le contrôler. Et le fils de Popov, Omar Popov, est venu ici. Et il disait, mon père disait toujours que Ian Fleming s'était inspiré en lui. Il était un homme qui était très bien, très soigné. Son petit nom entre les espions, c'était son nom de code, disons, c'était le tricycle, parce qu'il faisait la liaison entre deux espions, il faisait le lien.
Dusan Popov était un personnage de roman idéal, élégant, séduisant, un rien flambeur et toujours accompagné de jolies femmes. L'hôtel Palacio possède, comme il se doit, une chambre James Bond qui a servi de décor au film Au service secret de Sa Majesté, tourné en 1969. Le bar de l'hôtel Palacio est lui aussi très célèbre. De la glace, un verre pour mesurer et un shaker, les ingrédients de base pour un martini dry, le cocktail favori de James Bond qui est le must du bar de l'hôtel Palacio. Wilson est un barman expert.
Bon dia, servimos 25-30 dry martini.
Les bonjours, on sert entre 25 et 30 dry martini. En fait, le nom classique, c'est Vesper. Deux doses de gin, une dose de vodka et un trait de vermouth français, du
lillet.
Un zeste de citron et une olive verte. Sans oublier le shaker.
Comme
dit James Bond, shaken, not stirred. Car normalement, le Vesper se fait dans un verre mélangeur. Mais James Bond le préfère comme ça.
Fait dans un copo misturador.
Dans les galeries de l'hôtel Palacio, les photos des têtes couronnées réfugiées à Estoril pendant la guerre côtoient les photos des fiches d'enregistrement à l'hôtel de Fleming, Popov, Saint-Exupéry et d'autres. Les Allemands étaient pour leur part installés à l'hôtel du parc, voisin du palace et aujourd'hui disparu. Pendant la guerre, les diplomates, attachés militaires ou culturels, venaient officiellement sur la Riviera en villégiature. Dans la réalité, ils faisaient du renseignement, dans un endroit idéal pour créer un mythe, selon l'historienne Inès Brandan.
Il y a toute une littérature de fiction qui s'est développée autour de cette idée, de ce glamour, de ces hommes en smoking, le soir, au bar de l'hôtel, à Ian Fleming. Et qui s'espionnent les uns aux autres, etc. Et des femmes avec des tenues de soirée absolument extraordinaires qui viennent. Et donc toute cette industrie de littérature a créé cette idée de Qashqai comme un endroit de glamour et danger.
L'idée que l'on jouait le destin de l'Europe à une table de baccarat était excellente pour un romancier. Mais en fait, les échanges d'informations étaient procéduriers et fastidieux. Et pour beaucoup, Qashqai et Estoril étaient avant tout une planche de salut pour échapper aux nazis.
Ce qui se passe, c'est qu'à la mesure que le territoire nazi grandit et absorbe les territoires limitrophes, ces personnes, beaucoup d'entre elles qui s'étaient déjà réfugiées une première fois en Hollande, en Belgique, en France, doivent repartir et elles repartent vers les pays neutres, l'Espagne et le Portugal. Le Portugal est plus désirable pour deux raisons. Le régime portugais, quoi qu'il soit, un régime autoritaire, n'a pas de relation enthousiaste avec le régime nazi. Et surtout, le Portugal a des ports en plein fonctionnement qui peuvent permettre à ces réfugiés de laisser l'Europe pour de bon ou pour la duration des conflits.
Les réfugiés n'apparaissent pas dans les livres de Ian Fleming. Pourtant, on estime qu'entre 1938 et 1941, quelques 100 000 personnes ont pu passer par le Portugal pour ensuite se rendre aux États-Unis, en Amérique du Sud ou en Palestine britannique.
La vie de château, eh bien, par temps de Covid, ça n'est pas de tout repos. Comme pour les musées, les théâtres, les mesures sanitaires imposent aux châteaux privés de garder porte close. En France, dans le seul département de la Somme, dans le nord du pays, il y en a plus de 200, dont une partie vit des revenus des visites, de l'organisation de réception ou de la location de salles. Et cette perte de revenus, forcément, est un problème pour les propriétaires qu'a rencontré Lise Verbeck.
À cette saison, habituellement, les allées du château de Vauchelles-les-Domars sont remplies de cris de joie et de rire.
On est super vide. en ce moment, puisque nos mariés, eh ben, ils ne peuvent pas se marier. On est taxé de fermeture administrative et du coup, le château souffre beaucoup.
Valérie de la Susse-Saint-Géniès gère avec son mari cette bâtisse du XVIIe siècle où une trentaine de mariages se célèbrent chaque année. Même s'il est classé monument historique, elle ne reçoit aucune aide.
On n'est pas aidé comme entreprise et on n'est pas aidé comme particulier. Du coup, on passe entre toutes les grilles et on est coincé entre deux portes. Et c'est pas toujours facile. Venez voir. Voilà la salle. Donc vous avez une grande salle. Vous avez une salle où on peut se danser. Ça communique. Et puis je vous dis même pas toutes les problèmes avec les mariés qui nous demandent de les rembourser parce qu'ils peuvent plus se marier. Il y en a qui sont à la quatrième report. C'est horrible.
Vous voyez. Ils annulent.
Ah oui, souvent ils annulent à la quatrième fois, ils n'en peuvent plus.
Ces revenus liés au mariage sont essentiels pour le château qui demande beaucoup d'entretien. Voilà. Elle espère rouvrir dès que possible.
Tout le mur, c'est plein d'hortensias blancs.
Car la trésorerie s'amenuise de mois en mois. À une trentaine de kilomètres de Vauchelles-les-Domars, de l'autre côté de la vallée de la Somme, se trouve le château fort de Rambure. Depuis 5 mois, les visiteurs y trouvent porte close.
Il ne faut pas faire attention à tout, je suis encore en réaménagement des intérieurs, parce qu'on a tout changé en fait.
Aurélien Ries est le régisseur de ce château vieux de 600 ans, le premier en France fait de briques et de pierres.
Ici vous êtes dans la salle des gardes, donc c'est une pièce principale du château, qui dans son jus, on y retrouve des meubles d'époque.
Nathalie de Blanchard est-elle la belle-fille des propriétaires du lieu, la 74e génération.
Donc ça c'est la chambre dite du roi, où Henri IV aurait dormi quand il a rendu visite à la famille.
Depuis 50 ans, le château est ouvert aux visiteurs. Il en défile en moyenne 30 000 par an. En 2020, il n'a pu ouvrir que 3 petits mois.
Depuis un an, c'est difficile, puisque étant donné que nous sommes donc dépositaires, nous ne sommes pas une entreprise, donc déjà nous n'avons pas pu bénéficier des aides de l'État. Forcément, 3 mois d'ouverture, c'est pas suffisant pour couvrir les charges, pour pouvoir aussi continuer de sauver le château. On est vraiment tributaire de bon vouloir des banques qui veulent bien nous prêter pour pouvoir dépasser un peu ce moment difficile, payer nos charges et puis aussi les travaux qu'on a engagés, puisque c'est des travaux qui sont primordiaux pour pouvoir sauver le château. On peut pas le laisser dépérir.
Là, c'est des gros travaux de maçonnerie. Donc un mur qui tombe, on peut pas lui dire attention, stop Covid, arrête de tomber. On voit parfois les murs qui s'effritent, ça fait un petit peu mal. Alors non, ça fait mal de voir personne, et ça fait mal de voir les murs s'effriter, et même plus bêtement la poussière ou les toiles d'araignée arriver. Parce que s'il y a personne qui passe, ça se sent.
Pour le régisseur qui habite en face du château, le voir vide est un véritable crève-cœur.
Là, pour moi, c'est trop. Moralement, c'est compliqué. Comme Madame de Blanchard disait, notre ADN, c'est les gens, c'est de recevoir, c'est d'accueillir, c'est de montrer, c'est de partager. Moi, je me sens dépérir, honnêtement. J'ai du mal. Il y a moins de motivation.
Et ce qui lui reste en travers de la gorge, c'est l'abandon des pouvoirs publics.
Je vois, il n'y a pas longtemps, le Conseil Général a lancé un appel à projet. Ça, c'était super intéressant. Un appel à projet touristique. On s'est dit, ouais, génial. On va nous aider à lancer un nouveau truc. Justement, on va se réinventer, ça va repartir. Et on a voulu participer à ça. On nous a dit, non, vous êtes privé. Vous ne pouvez pas répondre à l'appel à projet. Donc c'est un appel à projet pour relancer le tourisme local réservé aux institutions. Donc voilà, c'est quand je vous dis qu'on se sent abandonné, je ne sais pas si on est abandonné, mais moi je me sens abandonné.
Le régisseur regarde tout de même vers l'avenir et se languit du jour où le château pourra de nouveau recevoir des visiteurs. En attendant, il a mis en place un nouveau parcours de visite qui empêche tout croisement, un vrai parcours anti-Covid.
À la réalisation d'Accent d'Europe, Jérémy Besset. Vous pouvez retrouver toutes nos éditions sur le site rfi.fr à la page podcast. À bientôt.